plus de 600 attaques et 6000 pertes en seulement 4 jours. L'offensive russe de printemps en Ukraine a bel et bien commencé.
Vladimir Poutine stagne en Ukraine, mais Donald Trump, lui, pourrait être en train de gagner la bataille iranienne. C'est ce que défend un expert en sécurité. C'est une thèse à contre-courant par rapport à toutes celles sur le bourbier iranien. On va la décrypter ensemble.
C'est l'ordre du monde.
C'est parti. Salut Mathieu.
Salut Annalisa, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans l'ordre du monde.
Alors cette semaine, on revient à un terrain duquel on ne s'était pas occupé depuis quelques temps, et c'est un de tes terrains de jeu favoris, c'est le terrain ukrainien, parce qu'on parle beaucoup de guerre en Iran, c'est mais ça. En même temps, il y a toujours la guerre en Ukraine.
C'est ça, forcément, tous les projecteurs sont braqués sur la région du Golfe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre le 17 et le 20 mars, les forces russes ont lancé plus de 600 attaques en Ukraine. Côté russe, le coût humain serait colossal. On parle de plus de 6000 morts et blessés en seulement 4 jours. Ça fait en moyenne 1500 pertes par jour. Ça, c'est selon le chef d'état-major ukrainien. Les chiffres ne sont pas vérifiables à ce stade. Ils ne sont pas encore repris par les organismes officiels de type ONU. Mais en tout cas...
Et la Russie ne communique jamais sur ces pertes.
Exactement. Mais en tout cas, vu l'ampleur des attaques de la semaine dernière, ça marque bien le début de l'offensive russe de printemps en Ukraine. Et ce qu'on peut lire aujourd'hui sur les réseaux des hauts gradés ukrainiens, c'est que tu avais des groupes d'assaut russes qui étaient pré-infiltrés, en fait, dans le Donbass, à l'avant du front, et ils attendaient qu'il y ait une fenêtre météo propice, qui soit dégradée. En fait, ils attendaient le brouillard pour pouvoir avancer sur la ligne de front et réduire l'efficacité des drones ukrainiens pendant les assauts. Et ce qui ressort des cartes du front qui sont actualisées par un think tank très intéressant qui s'appelle l'Institute for the Study of War, c'est que la ligne de front ukrainienne dans le Donbass, eh bien, elle tiendrait bon. Et ça, pour les stratèges ukrainiens, ce rythme très intense côté russe est tout simplement insoutenable dans la durée, même si on le voit, hein, Vladimir Poutine qui affiche des ambitions opérationnelles toujours très fortes. Tu te rappelles, on avait parlé notamment d'une énorme usine de production de drones qu'il avait inaugurée l'année dernière. C'est à Yelabouga, dans la république du Tatarstan. Il y produit là-bas une copie du redoutable drone Shahed. Exactement. Et en fait, ce serait la plus grande usine de production de drones au monde. Et il disait en novembre dernier, Vladimir Poutine, qu'il voulait lancer 2000 drones par nuit en Ukraine. Et regarde ce qui s'est passé en début de semaine. Lundi dernier, ça c'était une première, on a assisté à des salves, une intensité d'attaques de drones en plein jour, des centaines de drones russes lancés en plein jour, dont cette image assez dramatique d'une église historique, le monastère des Bernardins. C'était à Lviv, dans l'ouest du pays, qui était totalement en feu, qui s'était pris, percuté par un drone Shahed. Ça, cette image, elle est assez forte, on est en plein jour, et puis c'est très loin en fait, en profondeur, très loin de la ligne de front. Ouais.
En fait, les Russes, ils ont deux problèmes en ce moment. Tout d'abord, ils n'ont plus l'accès à Starlink, au système d'Elon Musk qui leur permettait de mieux voir les positionnements des Ukrainiens.
Ça aussi, c'est un vrai brouillard pour eux.
Exactement. Et puis, ils ont un deuxième problème, c'est qu'ils ont une pénurie de recrutement. Ils ne savent plus comment retrouver des militaires.
Oui, depuis l'été dernier, le Kremlin aurait besoin d'enrôler 30 à 35 000 soldats par mois pour compenser les pertes.
Alors, les Ukrainiens estiment qu'ils tuent à peu près 30 000 soldats par mois
ou blessés. En tout cas, des soldats qui tombent. Ça ne veut pas dire forcément tous morts, mais qui ne sont plus opérationnels. Donc on voit que la Russie promet des primes qui sont très alléchantes, des aides aussi aux familles, des soldats pour les convaincre de partir sur le front. La question est de savoir si c'est tenable dans la durée. Le danger pour Vladimir Poutine serait d'en arriver à décréter une mobilisation partielle ou général. Ça veut dire qu'on t'enrôle de force. Socialement, c'est hyper risqué. On voit qu'il y avait eu une mobilisation partielle en 2022, lors de l'invasion russe en Ukraine. Ça avait engendré à l'époque des milliers de fuites de Russes qui voulaient surtout pas être enrôlés, et une certaine angoisse au sein de la population russe, mais aussi une vague de répression des autorités russes vis-à-vis des contestataires. Donc là, c'est vraiment, il s'agit du climat social. Vladimir Poutine, pour l'instant, n'a pas forcément intérêt à appuyer sur ce bouton de la mobilisation.
Et alors justement, il pourrait utiliser ces primes dont tu parlais, et s'il peut promettre des salaires un peu plus élevés, des primes aux soldats, c'est aussi que ses caisses se renflouent un petit peu grâce au pétrole.
Oui, là, il y a un véritable, on revient aussi à la flambée des prix du brut avec la guerre, avec le détroit d'Hormuz qui est bloqué.
pour Vladimir, des sanctions américaines.
Exactement. Et ça, pour Vladimir Poutine, c'est vraiment le jackpot énergétique. Après, attention, hein, parce que ce jackpot, il masque aussi une économie russe qui est en trompe-l'œil. Alors certes, ça lui ferait gagner, si le baril augmente de 10 dollars, ça lui fait gagner à peu près 150 à 200 millions de dollars supplémentaires par jour. Hein, donc c'est plusieurs milliards dans les caisses depuis l'année 2006. Mais les indicateurs macro, ils sont pas très bons. Le PIB, il a reculé de plus de 2%, une inflation autour de 6%. Tu as aussi un chômage qui est artificiellement bas à 2,2%. Ça traduit plutôt une pénurie de main-d'œuvre qui est liée à la guerre. Et puis, il y a un signal très intéressant que j'ai découvert cette semaine. C'est que, selon le média russe d'opposition Medusa, j'apprends que pour la première fois, la Russie a dû puiser dans ses stocks d'or.
C'est toujours mauvais signe.
Ouais, bah si tu pioches dans tes stocks d'or, ça veut dire que tu manques de cash. Donc ça, c'est pas un bon signe. Ça veut dire que la trésorerie, elle se tend. Et donc c'est un peu l'ironie de l'histoire où tu vois cette même crise au Moyen-Orient qui d'un côté vient faire gonfler de manière spectaculaire ses recettes pétrolières, mais aussi de l'autre côté va faire baisser l'or.
Et en même temps, tout est lié aussi au conflit au Moyen-Orient, parce qu'on voit que les États-Unis sont en train de se désengager. Évidemment, ils ont besoin des armes et notamment des systèmes de défense Patriot pour les envoyer au Moyen-Orient. Est-ce que ça pourrait avoir des conséquences sur le terrain ukrainien et donc favoriser les Russes indirectement?
Forcément, ça peut avoir des conséquences. Et là-dessus, il y a une interview cette semaine du président Volodymyr Zelensky au Monde qui est très intéressante. On y lit en fait son message à Trump de Zelensky. Ce qu'il lui dit en substance, c'est que nous, les Ukrainiens, nous sommes les pionniers dans la guerre des drones. On a 4 ans de retour d'expérience. Donc, je peux t'envoyer mes experts ukrainiens dans la région du Golfe où tu t'embourbes. Et en retour, eh bien, tu maintiens ton aide américaine à l'Ukraine. C'est ça le message de Vladimir Zelensky cette semaine à Donald Trump.
C'est intéressant. C'est une manière de dire, regarde, je suis utile, tu m'as beaucoup aidé, mais moi...
Mes expertises des drones contre ton argent en Ukraine. Après, dans le détroit d'Ormuz, on voit que la situation, elle se déroule pas comme prévu. On a un conflit iranien qui coûte cher, qui mobilise des hommes, du matériel. Dans le même temps, on voit aussi que tu as le ministre de la guerre américain, Pete Hegseth, qui la semaine dernière demandait une rallonge budgétaire de 200 milliards de dollars. Tu as en même temps Trump qui était furieux il y a quelques jours, accusant les alliés de ne pas vouloir aider Washington, et il a ajouté que les États-Unis devraient s'en souvenir vis-à-vis de l'OTAN. Et ça, il faut voir ce que ces menaces, il faut voir si elles vont se traduire ou pas sur la garantie sécuritaire américaine en Ukraine, ça c'est une vraie question. Et si on élargit la focale, il faut voir qu'au-delà aussi de l'impact de ce qui se passe dans le Golfe par rapport à l'aide américaine en Ukraine, il y avait un mouvement de fond qui était déjà lancé depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, qui était un désengagement américain en Europe. Et ça c'est inscrit noir sur blanc dans la revue stratégique de défense américaine, avec l'idée que les Américains désormais se concentrent beaucoup plus sur le théâtre indo-pacifique et moins sur l'Europe, à qui il demande de garantir elle-même sa sécurité.
Et il se concentre aussi beaucoup plus sur le continent américain avec cette doctrine hémisphérique dont parlait Donald Trump.
Exactement.
C'est aussi parce que c'était sa promesse, celle de faire de l'America first. Donc
ce qui est loin de chez moi, c'est pour les autres.
Exactement.
Et moi je m'occupe de mon hémisphère. Complètement.
Et donc, quelque part, il doit rendre des comptes aux électeurs qui l'ont aussi voté pour ça.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai qu'il a un calendrier électoral qui est vraiment très délicat, Donald Trump. On voit qu'à l'approche des midterms, le soutien à l'Ukraine devient un sujet de fracture qui n'est pas nouveau. Hein. Regarde, en février 2024, j'ai retrouvé le sénateur républicain du Missouri. Il s'appelle Josh Hawley et il cachait pas sa colère au Sénat devant, face aux milliards dépensés en Ukraine. Il disait, nous allons reconstruire les frontières de l'Ukraine, mais pour vous, il s'adressait aux citoyens du Minnesota, du Kentucky, du Texas, pour vous, on va vous laisser vous faire empoisonner sur vos terres et vous n'aurez pas un centime. Voilà, il n'y aura rien pour vous. Et en fait, ce message-là, politique, cette colère vis-à-vis de l'aide américaine à l'Ukraine, ça peut prendre de l'ampleur dans la campagne des midterms. Et ça, c'est vraiment un aspect qu'il va falloir suivre dans les prochaines semaines. Et bien sûr, tu as aussi en parallèle cette guerre en Iran, où là aussi, elle vient percuter de plein fouet ce calendrier électoral des midterms. Ce qui nous amène à ton sujet aussi du jour, toi, Annalisa.
Oui, parce que justement, on entend beaucoup dire que Donald Trump est en train de perdre en Iran, ou du moins de s'embourber dans un terrain qui est beaucoup plus compliqué par rapport à ce qu'il avait prévu. Il pensait faire une opération à la vénézuélienne, donc d'y aller, de couper des têtes, d'affaiblir le régime, voire de le détruire, et puis de repartir comme ça avait finalement fonctionné au Venezuela.
Sauf que tu es tombé sur une théorie qui est un peu à contre-courant et donc très intéressante à suivre.
Exactement. Et si Trump avait raison, c'est la thèse de Mouanad Selloum, et c'est un expert en sécurité. Il est professeur adjoint de politique et de sécurité internationale à l'Institut d'études supérieures de Doha. D'ailleurs, il vit au Qatar, il a vécu en Irak pendant de nombreuses années. Et donc, il a écrit un article sur Al Jazeera, qui est devenu absolument viral. Tout le monde en parle depuis des semaines. Et lui, il dit, et c'est à peu près le seul, qui dit que la stratégie de Donald Trump, que non seulement Donald Trump a une stratégie, ce qu'on entend rarement, mais en plus qu'elle est en train de fonctionner. Alors je voulais t'en parler aujourd'hui et vous en parler aujourd'hui parce que c'est un autre son de cloche et donc c'est important de savoir ce qu'il dit. Lui, il dit que le récit de l'échec américano-israélien qu'on trouve un peu partout...
Ouais.
Est erroné. Alors, non pas parce que les coûts sont imaginaires, donc effectivement, les États-Unis et Israël sont en train de payer les coûts de cette guerre, mais parce qu'on est en train de regarder les mauvais indicateurs. En fait, il faut regarder les instruments de puissance de l'Iran, et quand on les regarde, donc c'est les missiles balistiques, l'infrastructure nucléaire, la défense aérienne, et quand on regarde tout ça, on s'aperçoit, toujours selon Mouanad Selloum, qu'ils sont en train de les dégrader progressivement, mais systématiquement. Donc les Israéliens et les Américains sont en train de tout détruire petit à petit.
C'est hyper intéressant, ça fait écho, tu sais quoi, à une autre... J'écoutais cette semaine aussi un autre chercheur influent qui s'appelle Robert Pape, qui a fondé le Centre de la Sécurité à l'Université de Chicago et qui dit lui aussi, attention, nous regardons dans la mauvaise direction. Alors, il tient pas le même discours, mais il dit que ce serait une erreur de se focaliser sur ce que nous dit, il faut pas écouter Donald Trump, sa rhétorique en fait est illisible, il faut regarder les mouvements de troupes américaine dans la région du Golfe, il n'y a que ça qui peut servir de grille de lecture pour comprendre où on va. Je referme la parenthèse, mais
c'est
ça fait une autre analyse qui montre qu'on ne regarde pas dans la bonne direction, peut-être.
Il y a quelques voix, ensuite, voilà, chacun se fait son avis, son opinion, mais lui dit que ça se voit de manière très claire. Toi, tu dis qu'il faut regarder Robert Pape.
Oui, c'est pas moi.
qu'il faut regarder les mouvements de troupes, et Mouanad Selloum dit qu'il faut regarder les chiffres des attaques des Iraniens. Il dit que ça montre qu'il y a une puissance de feu iranienne qui diminue. Les tirs de missiles balistiques ont chuté de plus de 90% le premier jour de la guerre, le 28 février. Il y en a eu 350 et le 14 mars, donc deux semaines après, il y en a eu seulement 25. La même chose pour les drones. Il y a eu 800 tirs de drones le premier jour de la guerre. Il y en a eu seulement 75 le 14 mars. Donc ça montre bien quelque part...
Une chute de l'efficacité opérationnelle, quoi. Enfin, de l'intensité des frappes côté iranien.
Au bout, quelque part, d'une partie de leur arsenal.
Mais ils arrivent quand même à se défendre, on a le sentiment. Alors, est-ce que c'est un récit ou est-ce que c'est dans la réalité?
Alors,
on a le sentiment qu'ils arrivent à se défendre.
C'est un récit parce que pour lui, l'Iran est une force qui gère le déclin et pas d'une force qui projette la puissance. Donc, il dit évidemment, les drones iraniens sont encore un danger parce que un petit drone peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts. Puis ces drones-là sont bon marché, ils se fabriquent rapidement, ils sont fabriqués un peu partout. Il raconte, il suffit d'un garage, d'un petit hangar, et un drone est fabriqué très rapidement avec pas beaucoup de personnel. Et donc c'est très, très compliqué de les arrêter. Mais l'arsenal traditionnel de guerre iranien est complètement détruit. Et puis les États-Unis et Israël dominent le ciel iranien. Ça, c'est quelque chose que les États-Unis disent assez souvent. Et puis, tu sais, on parle beaucoup des proxys, donc ces émanations de l'Iran qui sont dans la région et qui aident de temps en temps l'Iran à frapper les ennemis iraniens. Donc, c'est le Hezbollah libanais, par exemple, les milices chiites, les Houthis, les rebelles yéménites. Et voilà, selon Mouanad Selloum, ces groupes-là agissent par procuration, et en fait, ils suivent une politique qui avait déjà été instaurée avant la chute du régime. Donc, quelque part, c'est, tu sais, comme quand tu coupes la tête du serpent et il continue à bouger pendant quelques temps.
Ouais.
Lui, il dit, ils n'agissent que par réaction, par une autorité prédéléguée, lui, c'est le mot qu'il utilise, que met en œuvre un système de commandement centralisé quand il anticipe sa propre destruction. Donc, quelques semaines, il n'y aura plus rien.
Après, c'est vieux comme le monde. Hein. On sait que quand on est blessé, parfois, c'est peut-être là qu'on se montre aussi le plus dangereux. Et alors, on voit aussi dans la stratégie de réponse de l'Iran blessé d'un point de vue opérationnel, quand on voit tes chiffres, il a trouvé peut-être son arme ultime, qui est le détroit d'Ormuz. Exactement. Là-dessus, ça fonctionne plein pot, j'allais dire.
Effectivement. Et l'Iran ferme ce détroit d'Ormuz, donc il y a une mise au défi d'énormément de pays, dont les pays européens, dont les pays asiatiques, dont les pays du Golfe. Et là encore, Mohamed Selloum a une thèse très intéressante sur ce point, c'est qu'en fait, le détroit d'Ormuz est un atout perdu pour l'Iran. Il dit que fermer ce détroit a toujours été la principale arme de représailles de l'Iran. Et c'est vrai, on le savait, on en a parlé pendant des mois avant le début de cette guerre. On savait que le détroit d'Ormuz était un peu la dernière arme de l'Iran. Lui dit, en fait, l'Iran a tellement l'eau à la gorge qu'ils ont été obligés de fermer le détroit, mais ça va se retourner contre eux. Ça nuit à l'économie mondiale, bien sûr, c'était le but, mais ça nuit aussi à l'Iran. Ça accentue l'isolement de l'Iran, surtout parce que ça les pénalise par rapport aux Chinois, principaux partenaires commerciaux.
Ouais.
Et donc ça...
Il cirait la branche sur laquelle il est assis, quoi.
Exactement. Lui, c'est sa thèse par rapport au détroit d'Ormuz.
Et quelle serait la suite, selon ton chercheur? Est-ce que ça voudrait dire que Trump a en fait un plan très précis en tête?
C'est ça. Lui dit, un peu comme Pape que tu citais il y a quelques minutes, que c'est vrai, la rhétorique de Trump, on s'y perd. Il annonce d'abord qu'il faut capituler sans condition, ensuite il veut négocier, ensuite il veut changer de régime. C'est vrai, on s'y perd. Mais lui dit, c'est de la com', ce sont des prises de parole erratiques. C'est pas ça qu'il faut écouter. Pour lui, il faut regarder les opérations. C'est là où ça rejoint Robert Pape. Et en fait, il dit, nous, on a toujours pensé à cette guerre en Iran comme le conflit en Irak de 2023. On a toujours fait cette analogie-là. Et c'est là qu'on s'est trompé. En fait, ça ressemble plus à la guerre contre l'Allemagne en 1944-1945, quand les Américains devaient tout détruire pour essayer d'arrêter la machine de guerre allemande qui était absolument puissante, d'une formidable puissance. Donc, lui dit, il y a en fait une campagne très très précise qui a deux phases distinctes. La première qui a neutralisé toutes les défenses aériennes, je te le disais.
Donc là, c'est la campagne aérienne.
Exactement. Et la deuxième phase, et c'est là qu'on se trouve en ce moment, cible la base industrielle de défense. Donc tout ce qui peut fabriquer des missiles, tout ce qui fait les complexes souterrains où sont stockés tous les arsenaux. Donc là, on va plus en profondeur. Tu sais, on a beaucoup parlé de cette formule qui est « mowing the grass », donc tondre la pelouse, tu sais, ça veut dire abîmer la capacité de l'Iran de nuire sans vraiment arriver à détruire le régime. Et donc ça fait comme une pelouse que tu dois tondre non, toutes les trois semaines, un mois, parce qu'il faut repasser derrière, parce que ça repousse. Et lui dit « Non, en fait, on n'est pas en train de tondre la pelouse, on est en train d'arracher carrément les racines. Tondre la pelouse, toujours entre guillemets, c'est ce qu'on a fait pendant la guerre des 12 jours. » Et selon lui, en effet, les États-Unis et Israël, là, sont en train de détruire définitivement l'architecture iranienne.
Bon, en tout cas, c'est hyper intéressant comme analyse et comme déroulé. Si ça s'avère juste, de toute façon, j'imagine qu'on va être fixé dans assez peu de temps, parce que vu la rapidité à laquelle on voit la baisse de frappe opérationnelle de l'Iran, voilà, donc on sera fixé assez rapidement.
Mais tu vois, c'est un autre son de cloche à écouter. Ensuite, chacun se fait son avis et on verra bien qui avait raison à la fin. Mais c'est intéressant de l'écouter parce que c'est vrai qu'en ce moment, on analyse surtout une défaite partielle des États-Unis, au moins, qui s'embourbe dans ce conflit, qui s'enlise, qui s'étend.
Oui.
Lui nous dit, non, il faut être patient, attendez, la stratégie est en train de marcher.
Il faut toujours garder en tête aussi que dans les grands conflits, ça fait seulement quelques semaines, ça va faire seulement 4 semaines que le conflit a commencé. Dans l'histoire des conflits contemporains, 4 semaines, c'est rien. Mais c'est vrai que peut-être qu'à notre époque médiatique, algorithmique, eh bien forcément, tout doit aller extrêmement vite et on a l'impression que c'est déjà un temps long. On termine comme chaque semaine votre ordre du monde par des éléments qu'on surveille, qui pourront faire l'objet de prochains développements futurs. Toi, Annalisa, ce que tu surveilles, c'est MBS, je crois.
C'est ça, Riyad. Ben Salman, le prince héritier du régime saoudien, qu'est-ce qu'il va faire? On sait que pour l'instant, il ne s'est pas engagé dans la guerre. Pourquoi? Parce que ça serait bien compliqué pour les Saoudiens de s'engager dans une guerre aux côtés des États-Unis, mais surtout d'Israël. C'est pour ça que ça serait compliqué de s'engager dans cette guerre contre un autre pays musulman. Mais le New York Times commence à dire que Mohamed Ben Salman fait désormais pression sur Donald Trump pour qu'il continue la guerre et pour qu'il arrive à éradiquer le régime iranien. Pourquoi? En fait, le pire scénario pour les pays du Golfe, y compris pour l'Arabie Saoudite, serait celui d'un Iran affaibli, donc Donald Trump qui se retire, qui dit « c'est bon, j'ai gagné au moins sur un point, au moins sur Hormuz ou au moins sur le nucléaire, par exemple », qui se retire et qui laisse un Iran affaibli, Certes, un régime qui existe encore affaibli.
Blessé, donc dangereux.
Exactement, blessé, donc vindicatif, et donc qui essaierait d'atteindre tout ce qui est à sa portée. Évidemment, ce qui est à sa portée, ce ne sont pas les États-Unis.
Bien sûr. Mais donc, à surveiller les déclarations et réactions de MBS, peut-être l'homme le plus puissant de la région du Golfe.
Oui, en ce moment, effectivement. Et toi, en revanche, tu nous ramènes en Europe avec une menace plus proche de nous.
Oui, alors ça, c'est quelque chose qu'on va suivre aussi dans les prochains jours. Il faut avoir en tête que ça fait une dizaine de jours qu'il y a une cyber-campagne d'influence russe qui touche une petite ville estonienne qui touche la Russie, qui est à la frontière russe, qui s'appelle Narva. Et en fait, Narva, il y a juste un petit pont qui s'appelle le pont de l'amitié qui sépare Narva des bords russes. Et en fait, il y a beaucoup de comptes russes, là, qu'on peut voir, qui commencent à brandir l'idée d'une république populaire de Narva qui serait indépendante, rattachée à la Russie avec ses propres armes, ses blasons, etc. Donc ça, à surveiller dans les prochains jours pour voir si ça frappe shit, si c'est simplement...
C'est un nouveau Donbass ?
Faut avoir en tête que c'était le même narratif qui avait été poussé sur les réseaux avant l'invasion russe en Crimée, avant l'invasion russe au Donbass. À chaque fois, on souffle sur les braises des velléités indépendantistes de minorités ou majorités russophones dans des coins d'Europe, et derrière, on annexe. Donc voilà, c'est peut-être un signal faible qui va peut-être s'éteindre, mais à surveiller.
Il faudra surveiller Narva, peut-être qu'on va en parler dans les prochaines semaines.
En Estonie.
En Estonie.
Voilà. Et ben voilà pour l'ordre du monde, c'est terminé cette semaine. On était très contents de vous avoir retrouvés. Continuez à nous suivre sur tous les réseaux sociaux, sur YouTube, sur toutes les plateformes.
Et puis vous pouvez nous envoyer vos commentaires pour savoir ce que vous en pensez. Vous pouvez nous poser vos questions et puis on essaiera de s'y pencher, de vous donner la réponse, de réfléchir avec vous dans les prochaines semaines. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Ouais, avec grand plaisir. Salut Annalisa, au revoir à tous.
Au revoir à tous.